Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et bonjour, bonjour, c'est Capture Mag Hebdo. Et voilà, on est le 24 mai. Et
oui, décembre
2017. Et surtout.
On est le 24 avril surtout.
Pardon, excusez-moi. C'est vrai, je me voyais déjà en mai. Déjà en vacances. Non, on est le 24 avril et hier nous avons voté. Alors est-ce que vous avez bien voté, les amis? Vous avez été à l'isoloir, vous avez mis votre bulletin dans l'urne?
Hein, je ne répondrai jamais à cette question.
Bonjour Rafik.
Oui.
Quoi? Je te réveille, ça y est.
Je suis pas français, j'ai pas le droit de voter. Moi.
Ah bon, voilà, c'est pas grave, tu as peut-être des opinions politiques.
Ouais, je suis pour. Bah, en fait, j'ai voté Boumediene.
Oui.
Ouais. Et après, on m'a dit qu'il était mort.
D'accord. Ouais.
Ah, merde. Donc j'ai demandé un bulletin pour Nasser, on m'a dit qu'il avait été assassiné. Enfin, j'étais dans la merde, quoi.
Bonjour Stéphane.
Salut David.
Tu as voté, toi?
T'as voté quoi, toi?
Ah, moi je vote Amazon.
Ah, voilà, c'est ça, t'as voté Macron, quoi. C'est ça,
bravo. Roland Emmerich.
Oui, je vote Roland Emmerich, moi. Très bien, bon, j'espère que cette soirée électorale n'a pas été trop pénible. Et voilà pour vous remettre de toutes ces émotions électoralistes, un podcast Capture Mag sur le cinéma, avec des fanas de cinéma. Et nous avons aussi Yannick Dahan qui est revenu.
Salut.
Salut Yannick. Donc voilà, et puis on salue Julien de loin. C'est pas son nom, c'est pas son nom.
Mais c'est qui ces gens que tu as
oui, j'ai l'impression que chaque semaine vous parlez de gens malades qui sont loin et tout.
On salue Arnaud.
Putain, moi je suis là, je viens, j'ai même pas vu les films. Et tu parles de ceux qui sont pas là, quoi.
C'est vrai.
Allons, allez.
Mais
on salue Julien.
En tout cas, bah, puisque tu parles de film, t'as raison, puisqu'on va parler des Gardiens de la Galaxie numéro 2.
Volume 2.
On va parler de l'invasion des profanateurs.
Qui sort en vidéo.
Qui sort en Blu-ray même.
Hein, Blu-ray,
c'est surtout d'intérêt. Et de la collection Kurosawa. Qui sort en vidéo chez Wildside, dans ma salle. On va commencer tout de suite parce que c'est un hebdo, on n'a pas 3 heures non plus, et on va commencer par les Gardiens de la Galaxie numéro 2. James Gunn, les Gardiens de la Galaxie 2. Monsieur Stéphane, vous l'avez vu, vous êtes en joie.
En fait, il n'y a que moi qui l'ai vu. Mais écoute, contre toute attente, hein, et ça va en surprendre beaucoup, j'ai pas aimé le film.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Voilà, Stéphane, qu'est-ce qui t'arrive?
Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, Marvel. Tu vois, en fait, ça fait quoi? Ça fait 3 minutes que l'émission a commencé, on a déjà le point Avengers. Donc voilà, bah, tout est dit. Bah, on passe au suivant. Non, pardon. Alors, les Gardiens de la Galaxie 2, que dire sur
Il y a de la musique.
Ouais. Bah ça, bon, la BO, ça, tu peux pas leur enlever, c'est pas eux qui l'ont faite. Donc voilà.
Il y a de la blague
à fond dans les années 80.
Alors voilà. Qu'est-ce que c'est l'histoire des Gardiens de la Galaxie 2?
Moi je m'en rappelle déjà plus de l'histoire du premier. Si tu veux. Donc,
Moi non plus, mais c'est pas grave parce qu'en fait tout ce que je
Ça a pas grand chose à voir avec le premier d'ailleurs.
Si, bien sûr.
Ah, je veux dire, au niveau
de l'histoire. Si, c'est la suite directe. Bah,
non,
fait,
mais l'histoire
gros...
du premier, elle se bouclait complètement, puisqu'il sauve la planète, il tue le méchant, donc voilà, on est reparti.
Mais il n'avait pas trouvé son père.
Exact.
Alors ça, c'est une histoire intéressante. Il sauve la planète, il tue machin, mais il ne retrouve pas son père, c'est ça.
Voilà. C'est ça.
C'est assez générique.
Et Groot, l'espèce de créature arbre, explose pour les protéger et à moitié détruite, et il n'y a plus qu'une petite bouture. Donc il était grand, et voilà. Il est devenu tout petit.
Voilà,
un bébé Groot.
Voilà, c'est le truc. Bah, c'est une renaissance, quoi.
C'est une renaissance, voilà, ouais, bon. C'est ça.
Donc bah, là, en fait, tu as tous les mêmes personnages.
C'est Gardien de la Galaxie, renaissance, comme Ghost in the Shell.
D'accord. Et donc, bah, je vais arriver à en parler, en fait, tu vois, je veux dire,
tu vas arriver à en dire du bien, même.
Non, je ne pense pas. Le truc avec les Gardiens de la Galaxie 2, c'est que ça part donc sur l'idée que le personnage de comment il s'appelle?
Chris Pratt,
en fait, cherche son père et finit par le trouver. Et en l'occurrence, son père est interprété par Kurt Russell.
Ça, c'est montré à la bande annonce.
Voilà. Et il se trouve, en fait, et il se trouve que son père, en fait, ce qui s'appelle Ego, est une planète, ok. Et donc en fait, il est Star-Lord est à moitié humain, moitié extraterrestre, planète. Enfin bref, voilà. Et
tu nous spoilies pas trop là.
Non. C'est en gros, si tu veux, c'est le point de départ de l'intrigue. Et la question, c'est de savoir si Ego est vraiment son père ou pas. Et ça dure 2h20. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment ça.
Ça va,
se passe.
2h20, c'est pas si pire. Ils nous ont fait pire quand même. Hein.
Tu sais, le problème, c'est quand t'as
rien à... Pirates des Caraïbes 4, c'était 2h50.
Hein. Ouais, d'accord, mais bon, voilà. Donc, si tu sors les gros mots tout de suite, là. Le truc, en fait, c'est que c'est donc un film qui se passe quasi intégralement sur la planète en question, en fait, avec donc Kurt Russell, qui essaye de convaincre son fils, en fait, de qui il est, et qui lui explique quelles sont ses raisons de l'avoir retrouvé. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le spoiler territory parce que le film n'est pas encore sorti. Mais faut savoir que c'est l'enjeu littéralement principal du film. Tout le reste, ce n'est que de la blague. Et alors effectivement, tu me posais la question, Yannick, est-ce qu'il y a de la blague, est-ce qu'il y a de l'humour? Oui, il y a de l'humour, le problème en fait, et ça c'était un truc dont je me rappelais pas pour le coup du premier, et qui m'a vraiment posé un gros problème sur le second, c'est que littéralement toutes les blagues sont expliquées.
C'est-à-dire.
Alors, j'ai pas d'exemple spécifique dans le film, mais disons
dans la bande-annonce, par exemple, il y a l'extraterrestre qui arrive à lire dans les pensées de Star-Lord et qui voit qu'il a une attirance sexuelle pour la Bautista.
Voilà. Pour
Dave Bautista.
Non, pas pour Bautista, non, pour Saldana.
Non, pour ça. Voilà, c'est ça.
Ouais. Et donc en
et
gros,
ça fait marrer l'autre.
Et en fait, et ça fait marrer l'autre, Batista, mais en même temps, Batista. L'idée, c'est que en fait, en gros, l'autre lui dit pourquoi tu te marres. Et en fait, le Batista lui dit je me marre parce que t'es amoureux d'elle. Et en fait, toutes les explications sont comme ça. C'est-à-dire que tu vas voir.
Mais c'est pour les enfants.
Ouais, mais non, mais enfin, à un moment donné, moi, je suis pas un enfant. Ouais, mais encore une fois, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que tu la blagues en l'expliquant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si je te sors une blague que tu la comprends pas plus que ça et qu'il faut que je te la réexplique par derrière, tu rigoles?
Non.
Bon bah voilà, bah là c'est un peu le problème.
Pas. Ça rigolait pas dans la salle.
Ah si.
Ah ouais,
si.
Ah, d'accord.
Ah non, en fait alors bon ça je pense que mes deux acolytes ici vont confirmer ce sentiment un peu étrange sur les Gardiens de la Galaxie et généralement les Marvel, c'est effectivement quand on les voit en salle, les films, c'est des films qui provoquent l'hilarité générale, y compris à des moments où on comprend pas pourquoi les gens rigolent. À notre grand dame, en fait, parce qu'il y a...
C'est
y a...
un film sympathique. C'est pas...
Non, mais c'est même pas une question. Alors, moi, ça dépend desquels on parle, quoi. Mais là, en l'occurrence, si tu veux sympathique, il y en a certains, c'est même l'inverse total. Là, moi, le problème que j'ai avec un film comme Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est que on peut pas me vendre un film de petit malin, tu vois, genre smart comédie ou je sais pas quoi, quand, en gros, si tu veux, tout le principe du film, c'est de réexpliquer les gags. Enfin, tu veux dire, et en plus, c'est des gags d'un niveau, enfin, c'est les mecs qui marchent sur des peaux de banane, hein. Donc, c'est pas non plus de l'humour ultra sophistiqué. Donc, à partir de ce moment-là, que ça fasse rire les gens, bon, ça, admettons. Mais bon, le truc, c'est que, voilà, enfin, c'est un peu, et surtout, ça fait des scores complètement faramineux.
Ça fait des scores délirants, et c'est des productions monstrueusement chères, et je pense que ça joue aussi dans l'appréciation qu'on a de ces films-là. Juste avant l'émission, on était en train d'en parler, du fait qu'on détestait pas foncièrement certains de ces films.
Moi, je revendique même que j'aime bien.
Mais Les Gardiens, tu parles des Gardiens.
Ouais, en parlant de Gardiens de la Galaxie, t'étais d'accord avec moi, David, on cite un film comme Space Truckers,
ouais,
de Stuart Gordon, ouais. Voilà, qui sort en 1996, qui est un film
pas en France, hein.
Qui est un film à la Gardien de la Galaxie, qui était manifestement inspiré aussi des mêmes qui avait les mêmes inspirations, mais qui est un truc qui sort directement en vidéo, quoi. Et effectivement, on va avoir tendance à défendre ce film en disant, hey, les mecs, regardez, c'est sympa, les routiers de l'espace.
J'adore Space Truckers. Ouais. Et d'ailleurs, si vous arrivez à mettre la main sur une copie, vous allez bien vous marrer. C'est Dennis Hopper, Charles Dance, qui est un méchant extraordinaire.
Debbie Mazar aussi.
Debbie Julie Mazar qui joue l'héroïne. Ouais. Et lui, je me souviens plus.
Il y a Stephen Dorff.
Voilà, Stephen Dorff.
Ok.
Oh, bonjour.
Ouais. Enfin, quand vous parlez de Space Trucker, ce que j'ai vu, donc, moi, Space Trucker, c'est pas un film qui se fait passer pour ce que ce n'est
c'est
pas.
C'est ça. Exactement.
Là, le truc, c'est un petit budget.
C'est ça là où je voulais en venir.
Même au-delà de ça, c'est pas une question de petit budget. C'est une question de, à un moment donné. Enfin, je suis désolé, mais là, pour le coup, je me rappelle pas trop des Gardiens de l'Galaxie, mais je me rappelle par contre du discours de Marvel et du discours de, comment il s'appelle, de James Gunn, hein, dont on rappellera jamais assez que c'est le scénariste de Scooby-Doo 1 et 2, quoi. En gros, si tu veux, non, mais je fais de l'humour, je sais très bien qu'il a fait Roméo et Juliette et Slither ou Horribilis, en l'occurrence, et
normalement.
Et voilà, mais pour moi, si tu veux, quand je regarde Les Gardiens de la Galaxie, c'est le mec qui a fait Scooby-Doo 1 et 2. Parce que le souci, en fait, si tu veux, c'est qu'on te fait passer ça pour un film iconoclaste, on te fait passer ça pour un film qui fout des doigts d'honneur partout, qui t'envoie chier, et alors que c'est quand même hyper consensuel, y compris, je veux dire, dans ce que ça raconte. C'est-à-dire le truc, là, l'espèce de truc à la fin où ils se tiennent tous la main et leur amour sauve le monde. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand tu te fais passer pour quelqu'un, qui met des doigts dans le cul... Faut peut-être éviter faut peut-être éviter d'utiliser les mêmes tropes que chez Disney, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire.
Ouais, enfin, ça c'est sans contester du tout ce que tu dis, mais ça c'est la communication du film. Donc il y a
c'est dans le film. Hein.
Ah, ça je sais pas.
Bah si, c'est dans le film, les doigts d'honneur floutés à la caméra, quoi. Tu vois.
Bien sûr. Enfin... Après le film tel qu'il est, moi j'ai toujours un souci avec ça, c'est-à-dire que nous on bouffe plein de films depuis 40 ans, on en a vu de toutes les sortes des blocs. Blockbuster, on peut à juste titre considérer que la période James Cameron, Steven Spielberg, Zemeckis qu'on a eu dans les années 80 faisait que les blockbusters étaient aussi des films innovants, des films extrêmement bien construits, extrêmement bien écrits. On a eu aussi quand même pléthore de films tout merde. Aussi moyens que Gardien la Cité, et qu'on a trouvé tout aussi sympathique. Alors après, on peut s'insurger.
Mais en restant dans le sympathique. Et des films comme le dit Stéphane, ne se prenaient pas pour autre chose que ce qu'ils étaient.
Peut-être aussi que le public de ce genre de film-là, bon, moi, je suis comme toi, je veux dire, j'ai pas détesté le premier Gardien de la Galaxie, j'en avais juste rien à cirer, et je l'ai oublié aussi tout que je l'ai vu, mais peut-être que ce public-là... n'attend pas fondamentalement autre chose que ce que nous, on pouvait attendre d'une série B. Étant plus jeune, on avait envie de se marrer, on avait envie de déconner. Attends, on regardait pas encore trop spécialement forcément la mise en scène ou quoi que ce soit. Enfin, on prenait ça émotionnellement comme un plaisir. Je veux dire, bon, moi, étant gamin, j'allais voir... je savais ce que j'allais voir quand j'allais voir un Steven Seagal. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'allais voir Désigné pour mourir au cinéma, je savais ce que j'allais voir. J'étais pas dupe. Et en même temps, ça m'empêchait pas de prendre du plaisir. Peut-être que ces mecs-là n'écoutent pas le discours de James Gunn ou de Marvel. Et,
les aventuriers de la quatrième dimension.
Non, mais ce que je veux dire, ça n'enlève pas ce que dit Stéphane, qui est aujourd'hui la problématique. C'est une problématique de films franchisé, c'est-à-dire qu'on est sur des marques, on n'est plus sur des œuvres indépendantes les unes des autres. Tu vois, donc là aujourd'hui, il y a une espèce de discours commun qui est prêt à te raconter tout et n'importe quoi pour donner de la valeur à une marque. Maintenant,
le vrai référencement quand tu regardes un film comme Les Gardiens de la Galaxie, si tu veux partir sur les films qu'on regardait quand on était jeune et qui pourraient susceptiblement, et là je parle pas de qualité, hein. Je parle vraiment de ce que ça c'est censé représenter, pas pour le studio, hein, encore une fois, mais dans le ton et la volonté. C'est Jack Burton de Carpenter.
Bah
et
ouais,
en l'occurrence,
ouais, bien sûr.
Non, mais et en l'occurrence, je veux dire,
c'était un putain de film.
Jack Burton, c'était un putain de film, mais ça reste. Mais peut-être, mais c'est quand même un putain de film.
Ah,
30 ans
c'est
après.
Génial.
Et le truc, si tu veux, c'est que c'est là où je fais une distinction pour moi. Et je vais pas comparer ça à Steven Seagal parce que eux se comparent certainement pas à Steven Seagal. Okay. Mais bon, pour revenir à la problématique de cette suite, que alors est-ce que
c'est
on va
les
dire...
Gardiens de la Galaxie, c'était Jack Burton à l'époque, quoi.
Ouais, enfin voilà, donc le truc, si tu veux,
c'est que... Banzai,
c'est tout. Alors, encore une fois, Banzai, c'est pas faux.
Non, mais encore une fois, qualitativement parlant, c'est un gouffre, hein, entre les deux.
Non,
films,
non, évidemment, mais on est d'accord.
Quoi.
Mais, donc, mais c'est vrai que l'esprit, on est proche de cet esprit-là, quand même.
Ça se voudrait dans cet esprit-là. Voilà. Mais de toute façon, un mec comme James Gunn, il vient de cette culture.
Il vient de cette culture-là, voilà. C'est ça.
Bien sûr. C'est le gars qui a mis Howard the Duck en post-générique, hein.
Ouais, mais justement, il déteste le Howard the Duck en question, le film dont tu parles.
Ça, il a pas de goût, on sait, il a pas de goût. Non, mais attends, deux choses à dire sur James Gunn, il déteste Howard the Duck et il déteste John McTiernan. Donc ça pose
John McTiernan.
C'est lui qui nous avait insulté sur Twitter quand on avait monté le Free McTiernan, en fait.
Ah, mais voilà la haine de Stéphane.
Elle vient de là. Il nous avait insulté.
Non, mais je comprends bien. Pour moi, un mec comme James Gunn, jusqu'au Gardien de la Galaxie, à la base, si tu veux, c'est pas un mec que je détestais. C'était juste un mec que je me disais, bon, il est tout aussi capable d'écrire Horribilis qui est une petite, pour le coup, série B sympathique, tu vois. Pas super original, mais plutôt sympa, avec des acteurs sympas.
Et Roméo et Juliette, ça allait aussi. Mais encore une fois, Roméo et Juliette, ça se fait pas passer pour Titanic. Le problème d'un truc comme Les Gardiens de la Galaxie, c'est que c'est le blockbuster du moment, enfin, de la.
Non, mais ça, c'est James Gunn ou c'est Disney derrière?
Non, mais c'est James Gunn, c'est sa com à lui, c'est son discours sur le truc. Et le problème, en fait, qu'il a avec cette suite-là, c'est qu'il a cette espèce de logique où il t'explique qu'il a cassé le moule, ce qui est juste pas vrai du tout. Alors certes, ça ne se finit pas comme un autre Marvel, un anime Marvel comme ça se finissait à l'époque, avec des destructions massives de vaisseaux qui tombent sur des machins. T'as une destruction de planète, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Là où ça se la raconte beaucoup plus. Là où ça se la raconte beaucoup plus pour moi, c'est que t'as clairement des références à La Mort aux Trousses. Genre, mais littéralement, en fait, il refait des plans de La Mort aux Trousses, tu vois, en étant, enfin, tu ne sais pas d'où ça vient, pourquoi le mec fait ça, il le fait. Il va te chercher des caméos à droite à gauche qui, pour moi, n'ont quasiment pas de sens, à la part peut-être, tu vois, c'est quand t'as Michel Yeoh, c'est peut-être pour aller draguer le public chinois, puisqu'apparemment, il va falloir sortir le film là-bas et avoir des quotas. T'as Stallone... Et bon, Stallone dans la SF, on sait ce que ça donne. Hein.
Bah, c'est bien.
Ouais, c'est Judge Dredd et voilà. Donc,
et Demolition Man.
Moi, j'aime bien Demolition Man.
Ah ouais, moi aussi.
Ouais, mais d'accord. Mais c'est pas pour le côté SF. Hein.
Hein, non, ça c'est sûr.
Voilà.
C'est pour les trois coquillages.
Exactement. Mais le truc, c'est que au-delà de ça...
Donc, on sait maintenant d'où ils viennent. Merci Stéphane. Ça sera pour une autre émission.
Voilà. Donc, un jour, on fera une émission sur les trois coquillages de Demolition Man.
Ah ouais. Ça m'intéresse.
Et le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, oui, c'est un mec... Enfin, je veux dire, quand tu regardes le film, il y a clairement des trucs de Jodorowsky qui sont repris et formatés dans le film, en fait. C'est ça le problème que j'ai, moi, avec James Gunn. C'est qu'en fait, il va prendre des références qui sont des références très uniques, très spécifiques, et qui va totalement les formater dans un espèce de produit, je trouve... comment dire, je dis à la Disney parce qu'en fait pour moi c'est encore un truc où les méchants deviennent gentils, etc. Donc le problème c'est que
ce que tu nous dis c'est que c'est exactement un morceau rock américain des années 70 repris par Sylvie Vartan. C'est ça un peu.
Si tu veux, je
suis pas sûr que le public
je dirais plus repris par un groupe actuel
Eye of the Tiger par Sylvie Vartan.
Ah ouais, bah, c'est ça, ouais, tu vois.
Qui existe, ouais. qui a été fait.
Si vous êtes gentil, on vous passera un jour, quoi. Mais
mais où allons?
Elle part en couille cette émission, c'est fini en fait. Hein, je veux dire, on avait tenu, on était correct, carré jusque là, et puis en fait, qu'est-ce qu'il fait?
Moi, je m'interroge juste. J'entends ce qu'on dit, mais on parle du discours de James Gunn, on parle des blockbusters, tout ça. Qu'est-ce qui fondamentalement, pour toi, fait que Gardiens de la Galaxie 2 est plus nul comme premier qu'on pouvait trouver?
Alors, un,
oubliable, mais sympathique.
Ça ne raconte rien, littéralement. C'est-à-dire que
quand vous me dites que le
premier racontait rien, j'ai l'impression qu'il raconte 100 fois plus de trucs que le 2, quoi. Ce qui est quand même assez formidable, quoi. Et l'autre truc, enfin, moi, le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression vraiment de me taper un vrai film d'imbécile heureux. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression de me taper un film d'un mec qui est persuadé d'être intelligent, qui te fait son speech, son grand truc du monde, et qui est fait, mais con comme un balai, quoi. Le film.
Zack Snyder, quoi.
Non, parce que ouais, enfin, mais avec plus déconnant que Zack Snyder. Zack Snyder se prend très très au sérieux, quoi. Là, ça se prend au sérieux, mais ça reste humoristique, en fait, si tu veux. Donc oui, ça peut passer pour quelque chose qui, enfin, tu sais, ça passe tout seul comme ça. Moi, c'est juste que j'ai souffert 2h20 de film, quoi.
Ah, c'est la culture du ricanement, en fait. C'est ce qu'il y a aujourd'hui.
Là, les mecs, ils me mettent Sylvie Vartan.
C'est Sylvie Vartan. Ah, je vais écouter ça.
Mais t'as toute l'intro, donc tu peux continuer, Steph.
Merci, ouais. Et baisse un peu parce que je vais avoir ça dans les oreilles. Je vais pas réussir à terminer mon truc, quoi. Tu vois, c'est quand même, on te parle encore une fois, c'est un film. Alors, le mérite du film, ça, c'est, tu peux pas leur enlever, c'est que ça s'inscrit pas vraiment dans le MCU totalement. C'est-à-dire que même par rapport au premier, ils essayent pas de scotcher tout. Ils se rattrapent dans le générique de fin où ils te foutent 5 fins alternatives, enfin pas fin alternative, mais 5 easter eggs, là, comme ils appellent ça, tu vois.
Ah oui, oui.
Et roule ma poule, tu vois. Mais voilà, tu veux vraiment me couper la chic avec, avec la musique, quoi, c'est pas possible, quoi, tu vois. Non, mais tu vois, c'est un film qui te fait du référencement années 80, ok. Qui te disent, attends, mais les meilleurs mecs des années 80, tu sais qui? C'est David Hasselhoff, tu vois.
Ouais.
Et là, tu te dis...
Ou Sylvie Vartan.
Alors déjà, quand t'as vécu les années 80, c'est pas vrai.
Tu vois, c'est, enfin, c'est je pense pas qu'il le pense, excuse-moi.
Alors ouais, alors il a plutôt intérêt à le penser parce qu'il fait arriver David Hasselhoff dans le film.
Ça, tu ça me donne envie de le voir tout de suite.
Et ça
bah c'est du Cinoche Doudou, mais c'est du Doudou version cynique un peu. Non, voilà.
c'est un caméo de merde qui apparaît une seconde et le truc. Non mais ça. Bah,
on va tout savoir sur le film.
Non, vous allez pas tout savoir sur le film. J'ai même l'impression d'avoir rien.
Bah, attends, écoute Sylvie Vartan, tiens.
C'est énorme.
Yannick Dahan se pisse dessus là.
J'adore. De mauvaise cause, avec passion, on peut toujours faire quelque chose. On a peur de rien.
Excuse-nous Stéphane.
Donc, James Gunn, si tu nous écoutes. Voilà ce qui t'attend dans volume 3.
Voilà, c'est ça, je pense que dans le volume 3.
Mais tu vois, moi, le caméo de David Hasselhoff, bon.
Mais le caméo de David Hasselhoff, t'en avais un en Bob l'éponge il y a 10 ans, arrête.
Non, mais
franchement, c'est.
Bah ouais, je suis pas en train de dire que ça m'excite, mais ça me dérange pas plus que moi de voir le Flash Gordon dans la tête, tu vois.
Non,
ce que ça me fait rire.
Ça me pose problème aussi, c'est pareil.
Ah non, moi, ça me fait marrer.
Hasselhoff, ça faisait marrer il y a 10 ans et encore, quoi. Ce genre de truc, t'as l'impression qu'on en est revenu, quoi.
Donc le public de Gardien de la Galaxie, je sais pas comment ça l'interpelle, quoi.
Il a 12 ans, il a même pas vu.
Pose la question.
On va pas faire 3 heures sans les gardiens.
Surtout qu'on l'a pas vu, on va pas faire 3 heures dessus.
Voilà, on va pas faire 3 heures sans les gardiens de la galaxie. J'ai une question pour toi, Stéphane. Ouais. Est-ce que ceux qui ont aimé le premier film vont aimer le deuxième? Parce que toi, manifestement, t'avais pas tellement aimé le premier.
Probablement. J'aimerais rajouter un truc.
Rajoute.
Il y a un truc. Il y a cette espèce de fonctionnement nostalgique des années 80 qui est induit dans le film. C'est-à-dire, t'as une vibe années 80, de la musique des années 80, de la musique de merde, même des fois des années 80, donc David Hasselhoff et compagnie. Et t'as une nouvelle forme de nostalgie. Alors pour le coup, je me suis laissé prendre, mais vraiment par le truc. Mais ça dure une microseconde. Hein, c'est la scène d'ouverture du film. Que tu retrouves chez Marvel et Disney ces dernières années, et à un moment donné, il faut bien justifier leur putain de gros budget. Et la scène d'ouverture du film, ça se passe en 1980, et c'est Kurt Russell jeune, avec un rajeunissement numérique.
Ah ça, ils sont de plus en plus forts là-dessus.
Incroyable, incroyable. Et pendant une seconde, comme à l'époque d'Ant-Man avec Michael Douglas, comme à l'époque de Captain America 3 avec Robert Downey Jr. jeune aussi, évidemment Moff Tarkin dans Rogue One.
Ouais, ça j'arrive pas moi. Je...
Oh si quand même pas.
Bon là en l'occurrence
Léa je veux bien mais l'autre ça va. Quand même.
Non mais c'est marrant moi c'est le contraire. Autant Moff Tarkin je trouve qu'il fait pas vrai.
C'est pas Peter Cushing qui joue le rôle mais en l'occurrence c'est quand même assez incroyable quoi ce qu'ils ont réussi à faire. Là
non mais je dis pas que c'est pas une performance. Je dis que j'y crois moins que comme tu disais dans Ant-Man Michael Douglas jeune c'est impressionnant.
Donc là t'as Kurt Russell c'est surtout qu'on en plus on a les référencements c'est à dire qu'on les a connus à cette époque là quoi. C'est là où la nostalgie fonctionne de manière assez étrange, c'est que tu revois vraiment Kurt Russell jeune, il te fait putain. Tu vois, c'est que alors ça se passe en 1980, c'est pas tant le Kurt Russell de New York 87 plus le Kurt Russell de Tango et Cash, je dirais, toi, ou de Overboard. mais c'est impressionnant, c'est vraiment bluffant. Et alors je sais pas si c'est dans leur logique de nostalgie, je sais pas comment ils fonctionnent parce que c'est quand même un truc qui revient régulièrement maintenant et surtout chez eux quoi. Et comme c'est quand même un peu leur fond de commerce,
ils ont un logiciel.
J'imagine qu'il y a une logique. Ouais. Et ça, j'avoue j'en ai presque un peu honte, mais j'avoue que ça fonctionne un peu sur moi parce que j'ai mis merde Kurt Russell jeune, putain, c'est ça fait quelque chose quoi. Donc voilà, ouais, c'est le seul vrai plaisir que j'ai.
Je pense qu'il y a une satisfaction techniquement. À le faire en termes de
cinéphile, prouesse,
mais ça s'inscrit quand même complètement dans la direction où va le cinoche. Ça ne fait qu'appuyer davantage ce côté nostalgique qui est. On va m'arriver à vouloir refaire les films exact. Enfin, je dis ça, mais en fait, c'est ce qu'on a vu avec Star Wars, mais vouloir refaire exactement tous les icônes, tous les mythes. C'est-à-dire, ça t'en dit long. Sur l'absence de référents qu'on a aujourd'hui, c'est quand même assez hallucinant pour qu'on ait besoin, parce que qu'on puisse le faire par rapport à des gars comme nous, tout ce que tu veux, mais dans des blockbusters destinés à un public hyper large, dont plein de jeunes quand même, tu vois ce que je veux dire, plein de gens qui connaissaient pas cette période-là, et devoir systématiquement faire ça maintenant, je trouve que c'est assez hallucinant. C'est comme si quelque part le temps s'était arrêté, tu vois, à un moment donné, et qu'on n'est plus capable d'inventer quoi que ce soit,
et qu'on est dans une machine à remonter le temps, mais
ça dépasse complètement le cinéma, et c'est hallucinant quand même.
Culturellement, qu'il y a un problème effectivement, ou surtout quand on vient d'une époque, et c'est pas pour jouer le vieux con, c'est que c'était effectivement le cas où tu te faisais taper sur les doigts si
tu te reposais sur le passé. Enfin, je veux dire, exactement. Dans les années 80, tu faisais pas un film des 70s, quoi. Les gens te tournaient le dos.
J'allais finir par dire, on s'étonne pas des gens qu'on a comme candidat à la présidentielle. Ça signifie beaucoup.
Dans les années 70, quand ils faisaient un film comme, Grease, ils cachaient le nom de Gene Kelly à la chorégraphie parce qu'ils voulaient surtout pas que le public sache qu'il y avait un mec des années 60 qui avait fait des chorégraphies de ce film, tu vois. On était tout le temps dans le bon en avant, tu vois.
Ceci étant dit, il y a une vraie logique, encore une fois. Là, on va boucler un peu parce qu'on m'avait quand même vachement coupé dans les ans. Moi, ce qui me pose problème, en tout cas, vraiment, quand je regarde un film comme Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est que tout est dépassé, en fait, pour moi, dans ce film-là. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse considérer. Mais j'imagine que la façon de vendre le truc fait que, en fait, c'est pas dépassé ou en gros, ça se renouvelle, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, tout est dépassé, à part, encore une fois, cet exploit technique complètement fou. Enfin, moi, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'aurais fait, ah bon, ça va pas se voir, tu vois, parce que moi, voilà. Et sinon, effectivement, quand tu regardes le film,
c'est parfait.
Tu guettes le plan, quoi. Mais tout le reste, en fait, c'est complètement dépassé. Le caméo de David Hasselhoff qui arrive 15 ans après Bob l'éponge, le générique de fin où, en fait, tu vois des personnages qui dansent, là, pour te laisser partir comme dans un Chicken Little ou je sais pas quelle connerie, tu vois, d'il y a 15 ans. Enfin, voilà. Soit c'est des trucs, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression de regarder un vrai film, ce que j'appelle vraiment un film d'imbécile heureux. Et je traite pas forcément James Gunn d'imbécile heureux, hein, en l'occurrence. Pour moi, il y a une forme de cynisme énorme là-dedans, en fait. J'ai l'impression que c'est du calcul pur. J'ai pas l'impression que ça soit honnête. Dans le premier, même si j'aime pas le film, pour le coup, je vais pas vous dire « Ah, j'ai trouvé ça sympa », mais non, j'avais pas aimé, déjà. Au moins, j'avais l'impression que c'était relativement honnête, ça sortait un peu du cœur. Là, j'ai vraiment l'impression que tout est forcé, quoi. Ouais. Donc,
je savais pas si ça allait marcher, hein. Il y avait quand même un petit risque.
Mon cul, arrête. Attends, les mecs, ils lâchent pas 200 patates dans un film sans savoir si ça marche.
Et ça se voyait que c'était du calcul. Ça se voyait dès le premier.
Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que si. Les mecs, ils l'ont vendu exactement comme Avengers, ils ont repris les mêmes gags qu'Avengers, ils ont les foutu dedans, ça va.
La vraie question, quand Stéphane s'étonne aussi, et puis on finit peut-être là-dessus, mais quand il s'étonne que les Gardiens de la Galaxie puissent, aussi dépassés soient-ils, susciter un tel engouement, et pour quelle raison? Tu renvoies à toutes les franchises qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est encore pire pour moi, c'est presque encore pire sur du Star Wars, c'est presque encore pire sur du Fast and Furious, d'arriver à comprendre qu'est-ce que les mecs y trouvent encore dans quelque chose.
Bien sûr.
C'est même plus que du réchauffé à ce stade-là, c'est carbonisé le bidule, quoi. Et ouais, ça continue à fonctionner.
Mais tu suis une logique de perso, c'est-à-dire que la seule histoire que t'as dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, c'est, vous avez pas répondu à ce truc-là, le père de Star-Lord, c'est qui? Bim! Voilà la réponse dans le 2, tu vois, et ça ne joue que sur ça.
C'est une logique télévisuelle, mais c'est aussi une logique de marque, c'est une logique de franchise. Tu vas voir un Marvel maintenant, comme t'achètes un iPhone, quoi.
On va s'arrêter là, on vous retrouvera sur ce débat au moment de Thor Ragnarok, parce que je pense que vous allez adorer, vu qu'on est à peu près dans la même tranche d'âge mental. Et passons à une suite bien plus intéressante. Car pour la suite, nous allons parler de l'invasion des profanateurs.
La version de 78.
Exactement, la version de Philip Kaufman. Voilà. Qui veut engager les hostilités?
J'y vais. Hein.
Tu y vas,
Les Boys Nature, c'est mon truc, tu vois.
C'est ton truc.
La version de 78 qui ressort en Blu-ray chez Rimini Edition. Hein.
Quel bonheur.
Voilà, donc un film qui n'était pas sorti chez nous, en tout cas en Blu-ray en France, qui a déjà quand même eu quelques éditions aux États-Unis. Il y a eu une version MGM avec les bonus, une version Arrow Vidéo chez les Anglais.
Oui.
Voilà, donc
Arrow qui fait plein de trucs intéressants. Mais malheureusement, toujours qu'en anglais, avec des sous-titres anglais, il n'y a jamais de sous-titres français.
En même temps, c'est pour les Anglais. En même temps, c'est pour les Anglais.
D'accord. Non, mais...
et pourquoi on en parle? Parce que c'est quand même un grand film d'horreur des années 70, moi je trouve. Et l'exemple, un très bon exemple de remake, en tout cas sur le papier, à proprement parler, je suis un peu moins fan de la mise en scène du film. De manière générale, que je trouve un peu trop,
70s.
Un peu trop 70s. Non, mais ça colle avec le film et ça colle avec l'époque à laquelle il était fait, parce que c'est une relecture, donc, du film de Don Siegel, du film de 56, qui a longtemps été considéré, et pourtant c'est quelque chose que Don Siegel a vraiment refuté, comme une parabole sur le communisme et la montée du communisme. Alors que bon, c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus large que ça, le Body Snatchers.
Oui, d'ailleurs, piche-nous le sujet, puisque tout le monde ne connaît pas.
Alors, tout le monde ne connaît pas le Body Snatchers. Si, les gens qui écoutent Capture Mag, le podcast, connaissent quand même le Body Snatchers. Mais le truc, c'est que, en gros, les Body Snatchers, c'est une créature, en fait, qui vient de l'espace, et qui, en fait, reprend la forme de l'humain qu'elle retrouve en face d'elle, en crée une espèce de double, dont elle le vide de la substance. Et en fait, l'idée, c'est de la... de lui faire perdre toutes ses angoisses humaines, toutes ses angoisses tout le mal, en fait, ce que nous, on pourrait dire le mal de l'homme moderne, en fait, c'est-à-dire le mal de la société, quoi. Et de l'endormir, en fait, en gros, c'est ça. Le problème du body censure, c'est pour éviter les body censures, il faut ne pas s'endormir. Et en gros, c'est une créature qui te conforme, en fait, au groupe et qui, comment dire, te supprime toute forme d'individualité. Et donc ça, c'était déjà le sujet du livre de Jack Finney,
voilà.
Invasion of the Body Snatchers. Et qui est un
livre qui date de 55.
Ouais, c'est un an avant.
Et dans le contexte de l'époque du Don Siegel, c'était évident pour que la lecture anticommuniste apparaissait aux Américains, tout simplement parce que c'était le pays de l'individualisme et que le communisme à l'époque était vu de loin comme étant le conformisme absolu et justement la perte de tout un
alors, juste un petit détail, c'est que cette histoire de parasite extraterrestre qui vient piloter des humains, c'est pas Jack Finney qui l'a inventé, c'est quand même
Campbell.
Il y a plein d'auteurs en fait.
Campbell dans La chose d'un autre monde, hein. Dans le thing original.
Et tu as aussi Robert Heinlein dans les années 40 avec Marionnettes humaines.
Puppet Masters,
et Eric Frank Russell avec Guerre aux invisibles, qui est exactement le même sujet.
Mais Puppet Masters a été adapté au cinéma dans les années 90.
Mais on est dans cette mouvance paranoïaque, on va dire.
Qui a inspiré beaucoup de monde.
Voilà, qui a inspiré énormément de romans déjà à l'époque.
Mais à la base, si tu regarde donc pour ceux qui nous suivent le Beats qui est consacré au Body Snatchers,
écrit par Stéphane Wasecki, voilà, avec Arnaud Bordas.
Arnaud explique clairement que ça vient aussi de la littérature du 19e siècle, tu vois, du double de Dostoïevski, ce genre de choses,
même avant la poésie romantique avec le doppelganger,
voilà. Donc le truc c'est que à la limite c'est ce qui est intéressant justement avec une grande figure du fantastique, c'est qu'elle se renouvelle au fur et à mesure du temps, quoi. Et le truc qui est intéressant avec le Body Snatchers, c'est justement, et ce film là cette version là qui est écrite par W. Director, on parlait tout à l'heure, je crois, de Bukharu Banzai, donc c'est le réalisateur de Bukharu Banzai, en l'occurrence c'est le scénariste de cette version des années 70, et c'est réalisé par Philippe Kaufman, l'insoutenable légèreté de l'être,
l'étoffe
des héros,
c'est le premier que j'ai vu, c'est pour ça que c'est quoi la
dame légère
de l'être, je suis un peu plus jeune que vous, moi, les gars. Henry and June, j'allais dire, voilà. Moi surtout, j'aime beaucoup The Wanderers de lui.
Et puis il a contribué à créer un personnage de cinéma assez sympathique, quoi, d'archéologue aventurier qui était pas mal, quoi.
Ah oui. Je ne vois pas de qui tu parles. Ouais. Bref. Et donc,
avec un chapeau mou.
Voilà.
Et
donc,
un fouet.
Laissez-moi parler de Body Snatchers, merde. Donc.
Je veux parler de la belle Ferrara.
Non, j'aime beaucoup la belle Ferrara aussi. Hein. C'est un très bon remake, une très bonne approche, quoi. Peut-être que le film n'a pas été réalisé par la belle Ferrara, proprement parlé.
Peut-être.
Mais bon, voilà,
c'est la grande question, voilà. En fait. Mais bon.
Mais bref. Mais le revenons donc à la version de 78 de Philip Kaufman. Le truc qui était très intéressant, c'est que c'est en tout cas, je trouve, dans un des premiers remakes dont on peut déceler déjà que les gens qui faisaient le film étaient fans du film original, non pas dans l'idée de le répliquer de façon ce qui se fait un peu aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu fais un remake, c'est-à-dire refaire exactement le même film, mais au contraire, en fait, étendre sur la mythologie du Body Snatcher. Le premier film se passait dans une petite ville, là le film se passe à San Francisco, cette suite, et en fait, je sais pas si t'es au courant, David, mais la version de Don Siegel, c'est un film qui a été revu par le studio qui l'a diffusé à l'époque.
Je ne savais pas.
En gros, le prologue et l'épilogue ont été rajoutés pour rendre le film plus... pour lui donner une sorte de happy end, en fait. Le film devait vraiment se terminer sur le personnage de Kevin McCarthy qui se retrouve perdu au milieu de l'autoroute, qui se met à hurler, ils arrivent, fuyez.
D'ailleurs, pas mal de gens qui n'ont jamais vu le Don Siegel sont persuadés que c'est la scène finale, en fait.
Voilà.
Parce que cette scène où il crie sur l'autoroute à des gens qui l'écoutent pas, elle est tellement emblématique c'est toujours l'extrait qu'on voit partout.
Voilà. Et le truc qui est intéressant donc avec cette suite, c'est qu'il y a une espèce de logique un peu postmoderne où ils utilisent un peu comme ce qui se fait donc en gros quand tu fais un remake aujourd'hui, on va chercher les gens du film original, les mettre en caméo dans le film. Mais là, leur caméo a un vrai sens thématique, un vrai sens même narratif un peu absurde, mais qui fonctionne vraiment, parce que justement c'est la force des gens qui ont grandi avec ce film, quoi. C'est que le personnage de Kevin McCarthy réapparaît dans la même scène, C'est-à-dire, il apparaît en hurlant, fuyez, comme si ça faisait 20 ans, en fait, qu'il courait, et que, comment dire, qu'il essayait de prévenir les gens, quoi. Et dans cette, de cette manière-là, c'est une manière de restituer la véritable importance du body snatcher. C'est en ça que ce remake est aussi très intéressant. C'est que, c'est pas seulement déférent pour être déférent, c'est déférent tout en apportant vraiment quelque chose de nouveau et en remplaçant la qualité de l'original à sa place. Là où même le studio de l'époque, en fait, ne lui a pas accordé cette place. Il y a Don Siegel qui apparaît dans le film, qui joue un chauffeur de taxi, et qui est le chauffeur de taxi qui les mène à un traquenard pour les body snatchers. Donc en fait, comme c'était un film qui était très pessimiste et que Don Siegel lui-même est quand même un cinéaste assez, comment tu dis quand t'aimes pas l'humain, j'ai le terme qui
misanthrope.
Misanthrope, merci, ouais. Putain. C'est plus facile quand t'écris, hein. Tu vois, quand même c'est un cinéaste quand même misanthrope, lui donner le vrai rôle d'un mec qui va les mener à sa perte, c'est une manière de encore une fois de lui accorder le crédit du film qu'il faisait à l'époque et de lui dire voilà, vous avez le temps en fait. Explique ce qu'est vraiment Body Snatchers de Don Siegel et on vous le démontre pas seulement en ayant l'aval des gens qui l'ont fait, mais en leur accordant en fait ce que le studio ne leur a pas accordé à l'époque. Donc c'est ça qui est assez fou avec le film et surtout
dans le dialogue entre les deux films aussi qui peut être intéressant, c'est que même si encore une fois Don Siegel, comme tu l'as précisé, a toujours refusé qu'on voit son film comme un film anticommuniste, etc., il était quand même fait dans le cadre d'une paranoïa institutionnalisée par le gouvernement à l'époque, donc
c'était
par le gouvernement
Watergate.
Avant, non, là je parle du Don Siegel, arrive dans une paranoïa institutionnalisée, là où le film de Philip Kaufman arrive dans une paranoïa de contre-culture, en fait. Et tout d'un coup c'est le gouvernement américain qui devient soupçonné de complotisme et de paranoïa, etc. Et donc du coup le film est plus proche de nous à ce niveau-là, quoi, parce qu'il a un regard sur les institutions qu'on peut qualifier de paranoïaque. Et d'ailleurs, c'est un des traits intéressants du Philip Kaufman de cette époque, je trouve, et qui va faire plaisir à David, parce que ça en fait le Roland Emmerich de la fin des années 70.
Merde.
C'est Kaufman.
J'adore.
Non, mais c'est que Kaufman était plongé dans la littérature conspirationniste, en fait, tout simplement. Donc, même si c'est pas lui qui a écrit le script, c'est W. D. Richter qui l'a écrit.
Enfin, ils l'ont écrit ensemble.
Kaufman était à fond dans tous les ouvrages ésotérico, je sais pas quoi, et ça l'a vraiment nourri scénaristiquement parlant. Le fait qu'il ait ensuite développé l'intrigue des aventuriers de l'Arche perdue autour du Graal, ça vient de ses lectures, ésotériques et conspirationnistes, etc. Donc c'est intéressant de noter ça, quoi.
Alors effectivement, pour compléter ce que tu dis par rapport, en tout cas, le genre dans lequel pouvait s'inscrire le film, c'est que lui-même, le genre, a lui-même body-snaturisé un autre genre, en fait. C'est-à-dire, le film a plus ou moins body-snaturisé, entre guillemets, un autre genre. C'est-à-dire qu'il est allé dans le film de complot à Les Hommes du Président.
Exactement,
tous ces films-là, en fait. Et qui,
même visuellement, il y a des récurrences.
Complètement. Les Hommes du Président, ce genre de film, étaient des films qui traitaient de sujets journalistiques, sérieux, sociaux. Là, en fait, ils sont partis dans le fantastique tout en gardant cette patine-là et en traitant ça de manière complètement réaliste et sérieuse. Et le gros apport à la mythologie du body snatchers aussi qu'a fait ce film, L'invasion des profanateurs, c'est le cri, qui n'était pas chez Don Siegel, qui est vraiment un truc qui a été rattrapé, le cri de ralliement des body snatchers qu'on voit à la fin du film. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas spoiler la dernière image, mais bon, enfin, on va dire que c'est quand même un peu comme La planète des singes, tu vois. C'est-à-dire que si tu connais pas cette image de fin, c'est que bon, tu t'intéresses pas au cinéma, en gros. Mais le truc, c'est que ce cri, là où c'est aussi un dialogue intéressant avec le remake qui est arrivé en 93, c'est que c'est un cri qui a été repris aussi en 93 dans la version de Ferrara, augmenté aussi par rapport au truc. C'est vraiment devenu un cri de ralliement qui est utilisé dans le film et pas non comme une touche finale. Voilà, donc il y a quand même.
Flippant, faut le dire, c'est carrément flippant.
Ah bah, ça a traumatisé toute une génération de gamins, parce que moi, c'est pas comme ça que je l'ai découvert, mais il a été diffusé dans les années 80 en France en prime time, et il y a une génération de mômes qui a été durablement traumatisée, je pense qu'Arnaud en faisait partie, par ce, notamment ce final qu'on ne révélera pas, mais qui est la première chose qui tombera sur si tu tapes sur Google Body Snatchers.
Voilà, en gros. Ouais, donc le truc, c'est que voilà, ça a été repris dans le Ferrara. Effectivement, c'est très flippant. Et c'est ça qui est intéressant avec cette, en tout cas cette trilogie, parce que moi je mettrais le, il y a une quatrième version officielle faite par Olivier Hirschbiegel.
Il y a un aspect aussi apocalyptique qui était pas forcément dans le aussi évident dans le premier. Qui est intéressant. C'est, le film, il arrive 2 ans après le rage de Cronenberg, qui avait déjà des images traumatisantes, tu vois, de corps qu'on met dans des camions poubelles, etc. Et là aussi, il y a une grosse présence de la rue. Et des gens dans la rue.
J'ai une anecdote que vous connaissez peut-être pas, en fait, qui est assez intéressante. Parce que moi, je l'ai appris pour le coup. J'ai interviewé W Director récemment, en fait, il m'a appris que leur version à la base, c'était encore un film qui se passait jusqu'à encore un mois avant le début du tournage. C'était un film qui se passait aussi dans une petite ville. Mmh. Et en fait, ils se sont dit, mais ça marche pas, on est trop différent, on fait trop la même chose. Comment est-ce qu'on pourrait tout simplement augmenter la trouille, en fait? Et c'est Philip Kaufman qui lui a dit, et si on faisait ça dans une ville, quoi? Ils sont allés voir le producteur. Et ils lui ont dit, enfin le patron de United Artists à l'époque, quoi, MGM, qui leur a dit en gros, si le budget est le même, on tourne en ville. Donc ils se sont démerdés, ils ont réécrit le film rapidement pour l'intégrer, c'est la même histoire, c'est le même plot, pour l'intégrer dans une grande ville, celle de San Francisco, avec plein d'éléments, en fait, des vrais éléments de citadins. T'as notamment, par exemple, comment s'appelle le psychiatre, en fait, qui est interprété par le psychologue, qui est interprété par Leonard Nimoy, qui est vraiment, enfin, tu vois, je veux dire, c'est dans les petites villes américaines, t'as pas vraiment un psychologue, et certainement pas dans les années 70. Bon, là, voilà, c'est le psychologue libéral, comment dire, très calme. En fait, c'est un personnage qui est très bizarre parce que, c'est déjà un body snatchers avant d'être un body snatchers, donc c'est assez intéressant. Et effectivement, il y a du coup, en fait, il y a toute une imagerie de la rue dont tu parles. Il y a cette espèce de, il y a ce clochard, en fait, qui à un moment donné devient un espèce de croisement génétique avec un chien, dans une image hyper bizarre.
C'est bien foutu d'ailleurs pour l'époque. Hein.
Ouais, c'est un des trucs un peu Z du film, mais c'est W Director, encore une fois, quand les mecs ils ont des idées comme ça, c'était le mec qui a fait Bucaro Banzai, donc forcément, en fait, quand t'as des idées qui partent en cacahuète, t'en as une ou deux comme ça.
Un peu Z, mais c'est surtout que ça arrive, je pense, au bon moment. Il y a une espèce de rythmique de la terreur dans le film qui fait que plus ça avance, plus c'est. Le stress est suintant, et quand arrive cette image de chien, elle a un effet trauma parce que elle arrive à ce moment-là. Tu l'aurais vu trop tôt dans le film, à mon avis, c'était juste le rire rassuré.
Mais les images dont tu parles, c'est les trucs où tu vois, par exemple, des personnages de Donald Sutherland ou Brooke Adams qui se baladent dans la rue et qui se rendent même pas compte, en fait, que les gens sont perturbés, en fait, tout simplement, et qui commencent à courir et choses comme ça. C'est un truc qu'Edgar Wright a complètement repris, d'ailleurs, au début de Shaun of the Dead, en fait, quand lui, il est en train de partir au boulot dans le métro et qu'il voit des gens en train de courir et avoir des comportements irrationnels, sans vraiment se poser la question de ce qui se passe, quoi. Donc, effectivement, ouais, il y a une espèce d'imagerie apocalyptique.
Brooke Adams, a noté dernièrement que dans le film, elle lui faisait penser à Michel Rodriguez. Ça m'a fait rire parce qu'effectivement, il y a un truc, quoi.
Ouais, ouais. Bon, ouais, dans certaines images, quoi. Mais donc voilà, donc effectivement, c'est un film qui est très daté années 70. Enfin, vraiment, en plus, ça s'est fait dans un genre qui était très populaire à l'époque aussi. Enfin, ça a pris ses racines dans ce genre-là pour en faire un film d'horreur. Et puis c'est voilà, moi je trouve que c'est un film d'horreur super efficace sur un sujet que je trouve vraiment.
Et puis c'est juste un tout petit truc à la con, mais on parle de paranoïa, on parle d'anticommunisme, on parle de choses comme ça, mais c'est quelque chose qui, de manière plus ou moins directe, a aussi été pas mal inspiré la SF par la suite, beaucoup de séries télé sur la contamination, alors que ce soit à travers les robots, les cyborgs, les trucs comme ça, c'est quelque chose qui a été. Donc c'est vraiment. Je pense que derrière ça, il y a plutôt l'idée d'un système. Italienne. Alienant. D'une manière ou d'une autre, que ce soit une parano, que ce soit une politique, que ce soit un extraterrestre, que ce soit un robot, c'est l'idée de système. Et à cette époque-là, ça avait vraiment une valeur comme ça pouvait l'avoir à l'époque de Don Siegel, des raisons complètement différentes, mais c'est pas innocent que ça y soit. Comme j'ai envie de te dire, ça a l'air tout con, hein, mais tu vas regarder pour les amateurs de Star Trek, dont tu ne fais pas partie, je sais. Mais
moi, si.
Voilà, les Borg.
Ouais, bah oui.
Les Borg
oui,
avaient un sens au moment où ils sont arrivés dans la dans la série Star Trek par rapport aux États-Unis à l'époque où ça en était. Il y a vraiment à chaque fois ce truc-là renaît à partir du moment où on a l'impression
c'est vrai que
quelque part qu'il y a un Big Brother qui est en train de nous fucker, tu vois.
L'invasion des profanateurs et les Borg, c'est tout à fait justifié.
C'est pompé complètement.
C'est les mêmes.
Ils sont pas les chargés.
Non, mais assimilés.
Ouais, ouais, mais le truc, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, et plus on avance dans notre société, et plus en fait des films comme justement Invasion of the Body Snatchers comme ça sont comme dire important en fait et peuvent en fait si tu veux parler à l'individu
et quoi. Je suis même d'ailleurs extrêmement étonné que à l'instant T on n'est pas pas forcément une nouvelle version mais quelque chose qui exploite en tout cas ce thème de manière très claire à une période où on est quand même dans une contestation du système quel que soit le pays qui est quand même assez flagrant.
Pas ce système là, comme le fait remarquer Jean-Baptiste Toré dans l'excellente émission Beats consacrée au body snatcher, on est à une époque où les gens réclament cette assimilation, ils la veulent.
Oui, peut-être.
Là où dans
les 70, regarde moi et Amazon par exemple, nous avons fusionné.
Non mais
je suis pas sûr qu'il l'a.
Parce qu'il parle d'Instagram, il parle de Facebook, il parle de tous ces trucs-là.
Oui, mais je pense que c'est pas conscientisé. Mais la notion de système n'est pas conscientisée de cette manière-là. Mais bon,
le dernier film qui a vraiment traité ça, et après on va boucler, c'est Le Dernier Pub avant la fin du monde. C'est-à-dire que dans les films d'Edgar Wright, on a parlé un petit peu sur
la question des réseaux sociaux, elle était centrale dans le film.
Voilà, le film te parle des réseaux sociaux puisqu'il parle du net. Il te parle de ce qu'il disait la Starbucksisation du monde en fait, c'est-à-dire
c'est ce que je te dis avec les franchises tout à l'heure, voilà. c'est exactement ce que je te dis, sauf que je pense pas que c'est conscientisé du tout. Je pense que c'est la réalité du monde.
Non, parce que
on devient une masse de gnous et c'est d'autant plus non mais c'est une réalité.
Sur le gnou, c'est un animal sympathique.
Il est sympathique, mais les gars de la galaxie, tout ce qu'on dit, c'est exactement la même chose.
Le truc, c'est que l'idée, c'est de marketer ça.
Oui, mais
c'est comment tu marketes ça aux gens, comment tu présentes ça aux gens.
Mais parce que c'est un changement de système. Comme il y a des changements de paradigme, c'est un changement de système. Là où le système étatique était quelque chose de contesté, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à mesurer que la façon dont on conçoit nos rapports de propriété entre nous, en tant qu'être humain, et de consommation, sont un système. Et ce système-là, il est complètement assimilé, comme tu dis, on s'y assimile totalement, et donc on a besoin, pour justifier de notre assimilation, de trouver une autre forme de système à stigmatiser. Mais là, on est très philosophique.
Merci, monsieur Daron. Votre temps de parole est terminé. Nous allons passer à Stéphane.
Espèce de connard.
Non mais voilà, l'invasion.
Donc, on rappelle que l'invasion des profanateurs de Philip Kaufman. Et si vous aimez les gens habillés en vaste-pied de poule, et si vous aimez les années 70,
Donald Sutherland a une très belle permanente.
Ah ouais. Donald Sutherland, c'est on peut le dire, Donald Sutherland, c'est le père de Kiefer Sutherland, qui est lui-même très âgé maintenant.
Mais tu parles,
je parle aux jeunes.
Ah bon, d'accord. Okay.
Et donc pour 19,99€, pas un centime de plus, vous aurez ce magnifique Blu-ray chez vous, bourré de
ça sort là,
suppléments.
ça sort
le 25 avril, voilà, donc ça sort demain. Donc c'est parti, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Merci, passons au dernier sujet de la soirée. Et je me tourne vers Rafik qui va nous parler de Kurosawa.
Pourquoi de la soirée là? Il y a un côté, allez vous coucher les gens.
Mais tout à fait.
Là, on arrive en troisième partie.
Il est déjà tard, les gens ne s'en rendent pas compte parce que la lumière ne tombe pas dans le podcast.
C'est sympa pour le mec qui nous écoute en allant au boulot à 7h du matin.
C'est pas grave.
Donc,
il a l'impression de prolonger la nuit.
Donc voilà, Wild Side qui fait beaucoup pour la cinéphilie, il faut le rappeler. Et je dis pas ça parce qu'ils sont super cool.
Mais parce qu'ils t'envoient tout leur Blu-ray.
Ils t'envoient les Blu-ray, mais non, c'est surtout parce qu'ils en sortent. Un bon paxon, a sorti de pas mal de Kurosawa, Shambara, donc les plus connus, qui reste encore aujourd'hui un cinéaste connu essentiellement pour ses films en costume et ses films de sabre, mais ont eu le courage aussi de ressortir en Blu-ray des films qui n'appartiennent pas à ce genre, alors que Kurosawa a excellé dans tous les genres. Il faut rappeler que c'est d'abord et avant tout un cinéaste, avant d'être un cinéaste spécialisé dans un type de film. Donc, ces trois films-là, qui d'ailleurs souvent, j'ai remarqué dans l'histoire de l'édition vidéo, ont eu tendance à sortir au même moment, ces trois-là, alors que pas forcément, ils sont pas forcément liés thématiquement les uns aux autres.
C'est toute une collection hein, chez Wild Sign.
Il y en a beaucoup, voilà.
Avec un très beau look. Voilà. Hein, c'est très
joli. Il y a trois films qui sortent, qui sont Les Bas-fonds, Les salauds dorment en paix et entre le ciel et l'enfer. Alors les bas-fonds, on peut facilement leur attacher quand on a cette image du Kurosawa en costume, parce que c'est un film qui se passe dans les bas quartiers de Edo à la fin du 18e, début du 19e, je crois, qui est une adaptation de la pièce de Maxime Gorky, qui avait déjà été adaptée par Jean Renoir. Donc, en gros, c'est les deux plus célèbres adaptations de cette pièce, qui sont le Renoir et le Kurosawa, excusez du peu. Qui est donc... alors, bon, je vais pas m'étaler dessus, parce que moi, de ces trois-là, c'est un film c'est celui avec lequel j'ai le plus de difficultés, parce que même s'il reste, assez... assez non pas simplement dramatique mais pinçant par moment, quoi, c'est pas un film, c'est pas un vieux classique poussiéreux, c'est un film qui pulse de vie, mais il y a eu un choix très théâtral de sa part de tourner ça quasiment dans deux décors, quoi, et qui fait que le dynamisme de sa mise en scène, à mon sens, s'y perd un peu, alors que je conseillerais plutôt pour commencer au cinéphile d'aller mater le Renoir en préambule, que je trouve infiniment plus vivant. Donc je passe directement aux deux autres qui personnellement m'intéressent plus, donc voilà, qui sont Les Salauds dorment en paix et Entre le ciel et l'enfer. Donc Les salauds dans le tempé, c'est un drame qui se passe dans les bureaux et qui en réalité se transforme assez vite en thriller. C'est l'histoire d'une vengeance secrète, en fait, d'un mec qui va se venger d'une compagnie, d'une société qui va la détruire de l'intérieur, en mariant la fille d'un patron, etc., en faisant petit à petit son chemin au milieu de la corruption de cette. Alors c'est pas encore une multinationale, mais on est vraiment dans ces bureaux des années 50-60, hyper carré, où tout le monde est en costard-cravate, etc. Et c'est doublé en plus par la rigidité des institutions japonaises, où il y a une façon de se parler les uns aux autres. Et donc ce type, impeccablement incarné par Toshiro Mifune, voilà, se comporte comme le dernier des enculés. Il y avait eu une série de télé dans les années 90 qui s'appelait Profit, qui était un peu dans cet esprit, voilà, comment tu détruis une entreprise de l'intérieur par la manipulation. C'est un film incroyablement mis en scène. Je vous recommande d'ailleurs d'aller jeter un œil. Je pense que ça vous donnera envie de le découvrir. Ce salopard, mais cet excellent salopard de Tony Zhu, qui est un des plus grands cinéphiles qu'Internet nous ait offert ces dernières années, a fait une étude de l'utilisation de la géométrie dans une séquence, et il a choisi un extrait de ce film de Kurosawa. Donc voilà, vous tapez sur Internet The Bad Sleep Well, The Geometry of a Scene. Vous allez tomber sur la vidéo et il vous montre comment en deux plans et un travail incroyable sur le positionnement des personnages, Kurosawa te fait passer l'essentiel de tout ce qui n'est pas dit avec une tension incroyable. C'est un film aussi que j'apprécie beaucoup parce que c'est un genre qui a été très mal servi, ce que je pourrais appeler le thriller intra-entreprise, quoi, le thriller d'entreprise. Il y avait un préambule qui était le film de Robert Wise qui s'appelait La Tour des Ambitieux. Qui est dans la carrière de Robert Wise, un film qui est assez méconnu et que je recommande formellement, qui est aussi l'histoire d'un tout petit événement qui va détruire toute une société de l'intérieur où tout le monde va se tirer dans les pattes. Et si vous n'en avez pas assez avec ces deux-là, vous avez aussi un film français qui lui est plus difficile à voir parce que les Français ont cette particularité de très très mal s'occuper de leur propre patrimoine, qui est un film qui s'appelle L'Imprécateur de Jean-Louis Bertuccelli, qui était sorti dans les années 70 avec un casting assez incroyable où il y a Jean-Yann, il me semble qu'il y avait Rochefort, Serrault, enfin il y avait plein de monde là-dedans.
Il n'y a pas une version avec Sylvie Vartan ?
Il n'y a pas de version avec
en tout cas, celui-là,
la version de James Gunn qu'on puisse l'avoir.
Les Salauds dorment en paix, c'est avec Toshiro Mifune,
Mifune dans les trois films, d'accord, dont je vais parler ce soir. Il n'est pas l'acteur fétiche de Kurosawa pour rien.
Pour rien, ouais. Et il y a aussi la très jolie Kyoko Kagawa que je trouve très...
Pour laquelle tu as un faible, voilà, faible marqué. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir un bon trio de bon sang, de saloperie, de thriller qui se passe dans le milieu de l'entreprise, donc vous vous faites d'affilée La Tour des Ambitieux, Les Salauds dorment en paix de Kurosawa, et vous concluez avec L'Imprécateur de Bertuccelli, dans lequel voilà vous aurez Jean-Pierre Marielle, Jean-Yann, Michel Piccoli et Jean. Ça nous fait, ça nous fait. Si tu nous réussis à trouver une copie de l'imprécateur, je te fais un bisou sur les fesses.
Ça, j'aimerais bien voir l'affiche. Hein. Là, juste voir l'affiche avec le, alors le genre, tu vois, traité quoi. Le thriller en entreprise.
Comment? C'est ça, c'est cette vidéo là, ouais, dans laquelle il étudie cette une
Yannick
séquence.
Yannick a trouvé ça sur YouTube.
Allez voir la vidéo de Tony Zhu, elle est pour ceux, je pense que vous, beaucoup de nos auditeurs le connaissent déjà, quoi, mais il est vraiment très fort. Et enfin, donc Entre le ciel et l'enfer, qui lui date de 63. Alors, il est important de noter aussi que quand il fait ses films modernes. Kurosawa est déjà devenu un réalisateur classique, classifié. Rashomon et les Sept Samouraïs ont été d'énormes surprises pour les Occidentaux, et il est devenu quasiment l'incarnation du cinéma japonais à lui tout seul pour la moitié du monde. Donc il est vraiment en position de force quand il fait ça, et il fait ses films dans un Japon qui est en pleine transformation. Donc sa façon de filmer la modernité, elle est aussi très intéressante parce qu'il replace les codes qu'il utilise dans le Chambara, qui sont les codes de la société japonaise en général, mais en les retraçant dans le monde de l'entreprise, en fait. Donc, et je dis ça parce que Entre le ciel et l'enfer, donc le troisième de ces films, qui se passe aussi dans l'entreprise, hein, c'est l'histoire du patron d'une société qui fabrique des chaussures dont le fils est kidnappé, à qui on demande une rançon, et donc il y a voilà, une situation de cellule de crise, on va dire, par rapport à ça. C'est un film choral dont la mise en scène, je trouve, va beaucoup inspirer le film de Yakuza, parce que c'est beaucoup de séquences qui mettent en scène plusieurs personnages dans le champ. Alors c'est toujours les deux derniers dont je viens de parler, c'est du magnifique cinémascope hyper bien exploité, donc voilà, avec un sens du cadrage complètement dément. Et alors que dans les Salauds d'Homme Tempé, on était plutôt dans une mise en scène de la confrontation, c'est-à-dire on passe d'un personnage à l'autre, quoi, si tu veux. Dans Entre ciel et l'enfer, on a vraiment une mise en scène de chorale, donc toujours avec des groupes, en fait, quoi. Et c'est en ça que ça peut rappeler le cinéma. Enfin, c'est pas que ça rappelle le cinéma de Yakuza, c'est que ça le préfigure d'une certaine façon dans les films qui vont être faits à sa suite. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu le Kurosawa entre guillemets moderne, je vous conseille vivement.
C'est trois films.
Pas les trois, parce que Les Bas-fonds, c'est un film en costume. Mais de toute façon, je vous conseille tous les Kurosawa à la base, mais jetez-vous sur Les Salauds d'Homme Tempé et Entre le ciel et l'enfer. Voilà, c'est des films qui, à mon sens, ont beaucoup, beaucoup de leçons à donner à tous les aspirants cinéastes et aux cinéphiles en général qui veulent juste prendre du plaisir devant du beau cinéma.
Eh bien, merci beaucoup, Rafik. On retrouve évidemment l'intégralité de cette collection Wildchild sur les sites de vente.
J'ai oublié de dire que dans Entre ciel et l'enfer, on a non seulement Toshiro Mifune, mais il fait face à Tatsuya Nakade, qui est en gros le deuxième big boss de l'époque, quoi. Donc, voilà, c'est Jean Gabin versus Lino Ventura dans un film d'Henri Verneuil, quoi, voilà, c'est ça.
24,99€ le volume, et il y en a beaucoup, hein, sorti chez Whiteside et Kurosawa.
Oui,
ça, c'est les trois derniers dont tu parles, donc ils sortent le 3 mai.
Là, oui, heureusement
ils sortent le 3 mai, et sinon, il y en a déjà beaucoup de.
Et leurs éditions sont toujours impeccables, elles sont bien présentées, enfin voilà, il n'y a rien à dire, c'est du beau boulot.
Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, c'est toi qui voulais ajouter quelque chose, tu voulais nous parler de l'Alien Day.
Ah, tout à fait. Je vais vous parler de l'Alien Day. Je vais vous parler qui est le 20.
Avant qu'on boucle, quand même.
Exactement. Merci.
C'est le dernier Alien, c'est ça?
On en parlera plus tard, mais le 26 avril, c'est le Alien Day. Ça fait déjà plusieurs années que c'est le Alien Day.
Ah, c'était vraiment Alien. Je croyais que tu parlais de Salvatore Alien Day, moi.
Oui, alors c'est aussi Alien Day. Je ne sais pas quel rapport il a avec ça, mais voilà. C'est le Alien Day.
D'accord.
Le jour de Alien. Et donc, c'est l'occasion de découvrir plein de jolis produits de licence autour de Alien. Il y en a pas mal chez nos amis de Mondo Tees. Je ne sais pas si tu connais cette magnifique maison d'édition qui fait maintenant plus d'affiches de films et de produits dérivés divers et variés que des t-shirts, puisqu'à la base Mondo Tees c'était des t-shirts
ouais.
Mais maintenant c'est beaucoup d'autres choses et ils ont énormément de succès dans ce qu'ils font, et d'ailleurs ils ont sorti une très belle affiche sur Alien qui est très chouette. Bref, tout ça pour dire que moi je me suis occupé pour la maison d'édition que vous connaissez bien qui s'appelle Brajlon, pour laquelle je travaille entre autres, je me suis occupé d'un livre qui regroupe l'intégralité des romans Alien, 3 de Aladdin Foster et 1 de Anne C. Crispin, je crois que c'est Anne A. C. Crispin, qui est une auteuresse.
Et
c'est les novélisations
des films de Alien, Aliens, Alien Cube et Alien Resurrection. Voilà, je me trompe pas. Donc voilà, c'est les novélisations des films. Ce qui était intéressant, c'est que chez Bragelonne, ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux livres de novélisation. On avait fait Star Trek, on a fait Terminator, on a fait Indiana Jones, on a fait, on a aussi ressorti Ian Fleming. On a été les premiers à le rééditer au début des années 2000. Et on a toujours aimé la novélisation, on s'est toujours intéressé à ça. Et quand Stéphane Marsan, directeur d'éditorial chez Bragelonne, m'a proposé de faire quelque chose avec ces novélisations, j'ai dit « Ah bah ça serait cool d'en faire un très bel objet ». Parce que mine de rien, garder des petits poches dans sa bibliothèque, c'est pas forcément pratique ni bien joli. Donc je me suis dit « Alien, c'est quand même le support pour faire un bel objet ». Et on a fait un très beau livre de plus de 900 pages. C'est une histoire assez compliquée, je vais passer sur les détails, mais en gros, grâce au designer qui a fait le design de la couve, qui est Philippe Carini, j'ai rencontré la veuve de Giger, de H.R. Giger, qui est le designer du monstre, de la créature alien, et on s'est très bien entendu, et elle m'a donné accès aux archives de Giger, ce qui fait qu'on a fait un cahier. Alors, non seulement on s'est servi d'une peinture de Giger pour faire la couverture, donc ça donne une très belle couverture, et ensuite on a fait un cahier de photos. Il y a 68 pages de photos sur les 4 films, et Giger lui a designé beaucoup de choses sur le premier évidemment, et sur le troisième film aussi, avant que ce soit repris par Tom Woodruff et Alec Gillis, et donc on a eu accès à ces dessins, à ces designs qu'on a mis dans le cahier de photos. Mais c'est pas tout, grâce à Philippe toujours, j'ai rencontré un type formidable qui s'appelle Denis Love, qui est un des techniciens qui a travaillé sur le premier Alien en 79. Il a toute une bande de copains de techniciens avec qui ils ont gardé le contact et qui ont pris des centaines de photos du tournage, surtout des maquettes et des décors. Et j'ai hérité de ces photos, il me les a envoyées très gentiment en disant « Écoute, moi j'en fais rien, si tu peux en faire quelque chose ». Et donc je me suis retrouvé avec des centaines de photos inédites du premier film, ce qui m'a laissé un peu pantois. Et donc j'en ai utilisé quelques-unes pour ce cahier d'images, et j'en ai encore beaucoup à publier, donc je pense que je vais me pencher sur la créature d'un livre, mais je vous en reparlerai, sur le making of d'Alien, parce qu'il y a vraiment des choses incroyables. En tout cas, pour cet ouvrage-là, il y a un très beau cahier photo, c'est un beau livre grand format, donc vous pouvez aller voir des images tout de suite si vous tapez alien.bragelonne, bragelonne.fr. Vous tombez sur la page de précommande. L'intérêt, c'est que la précommande sur ce site, elle est, genre, je ne vais pas redire de bêtises sur le prix, mais c'est donc 32,90€ pour les 4 romans et le cahier photo, au lieu de 39,50€ le jour où le bouquin sortira, puisqu'on a droit en précommande de faire un prix promotionnel. Et pour ce prix-là, donc, vous le recevrez même chez vous. Il sera envoyé à partir du 19 mai, la date de sortie du bouquin. Voilà, je me permets de faire la promo de mon bouquin, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je m'en suis beaucoup occupé. Je me suis occupé de sa mise en page, grâce à Philippe Carini qui avait fait d'ailleurs pour nous l'affiche de la nuit alien en décembre dernier, ou la nuit au max. C'est lui qui avait designé cette affiche. On s'est très bien entendu, et c'est là qu'il m'a dit « Écoute, il faut absolument qu'on fasse de cette quadrilogie de romans un bel ouvrage, un bel écrin. » Et voilà, j'ai hâte de l'avoir en main, parce qu'il est en fabrication.
Juste ça a l'air très joli, je suis sur la page en question, juste pour t'embêter un peu, les croquis de Giger que tu as récupéré avaient déjà été publiés le cinéphage.
Oui, alors, rien de Giger n'est inédit, il n'y a plus rien d'inédit, tout a été publié, et le plus bel ouvrage...
C'est les photos, toi, c'est les photos.
Ouais, c'est les photos qui sont inédites, ouais, du tournage. Ouais. Le plus bel ouvrage pour voir le travail de Giger sur Alien, c'est un bouquin qui s'appelle Alien Diaries, qui est un magnifique volume qui reprend tous les carnets de notes de Giger sur le tournage du premier film, puisqu'en fait, Giger était présent sur le tournage, il était caché dans un coin du studio, parce qu'il faisait peur à tout le monde, et il est actif, d'ailleurs on le voit sur les photos qu'on a mis dans le bouquin. C'est lui le space jockey, c'est lui qui monte dessus et qui le sculpte en direct, parce que les mecs ils savent pas, c'est pas des sculpteurs, et Giger est un artiste complet qui non seulement sait dessiner mais sait sculpter, il sait tout faire, et il était complètement actif dans la création des décors, des créatures, il était là présent. Et donc sur le premier film, il a fait que des croquis qui sont pas hyper détaillés. Tout ce qu'il a fait en peinture sur Alien, il l'a fait soit avant, qui n'était pas le sujet d'Alien, et soit après, en inspiré de ce qu'il avait fait sur le film. Par contre, sur Alien 3, il travaillait très différemment,
et il a fait surtout des croquis noirs et blancs qui sont magnifiques, qui sont des croquis qui ont été faits pour le fax, parce qu'il communiquait énormément par fax, donc c'est des grands dessins qu'il dessinait en noir et blanc au stylo bille pour que ça passe nickel pour les envoyer à Fincher par fax, quoi. C'est assez marrant. Donc voilà, tout ça, on retrouve ça dans le bouquin. Il n'y a pas d'explication, c'est vraiment un carnet de photos et de souvenirs. Les gens qui connaissent Alien vont reconnaître. Stéphane, tu as une question?
Non, ouais. C'est, alors donc, pour le commander, avant la sortie, en préco, c'est alien.brajlon.fr.
C'est ça, alien.brajlon.fr.
Après, c'est Amazon.
Après, ça sera Amazon au prix normal, ouais. Ou votre libraire spécialisé.
Et vous n'avez pas récupéré la novélisation de Prometheus?
Mais on y pense.
Parce qu'elle existe, hein.
C'est
elle
possible.
S'appelle Choupi dans l'espace.
C'est ça.
Ouais.
Choupi dans l'espace.
C'est con.
Bon, et ça vaut le coup de l'avoir à moins de 33€, frais de port compris. Ça fait une bonne remise.
Achetez mon livre.
Mais oui, achetez-le parce que.
32,90€.
On s'est donné. Merci Yannick. On s'est donné du mal.
J'en ferai la promo dans mon émission, rien que pour te faire plaisir.
Bah, ça me fait très plaisir. Bah, je t'offrirai un volume pour la
Voilà, fête. C'est pour ça que je le fais.
Bravo, les bande de crevards.
Bon, je pense que c'est l'heure de boucler là.
C'est l'heure de.
Il vaut mieux arrêter vite.
Je crois, on est à la limite du capture mag tout à fait normal, quoi.
On est à la limite du délit d'initié de corruption absolue.
On dirait des putains de fillonistes là.
Exactement.
Je n'ai pas caché
attention,
une seule
en train
minute.
De donner ton orientation
je
politique.
Je ne vous ai pas caché une seule minute que j'avais fait ce bouquin.
Juste une chose, hein, j'ai travaillé dans à leur vue. J'ai fait un article pour la revue des Deux Mondes et je n'ai pas du tout eu le salaire de Penelope Fill.
Oh, quel dommage.
Je tiens à le dire ici au milieu du monde. Je me suis fait entuber.
Bon, ben c'est pas grave. Tu t'en remets pas. Fick, je pensais
comme nous tous.
On va terminer sur cette note joyeuse. C'est formidable.
Votez Poutou.
Achetez mon livre, votez Poutou. C'est trop tard. C'est déjà trop tard, Yannick. Stéphane n'en peut plus.
Allez, boucle.
CaptureMag.net, c'est l'adresse.
Et puis, 5 étoiles sur
5
iTunes.
Étoiles sur iTunes, c'est très important. Et puis, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine pour un Capture Mag Hebdo ou un gros Capture Mag, on verra.
On verra, on s'en fout.
On s'en fout. Ouais.